Quatrième partie. Mais. L'espace d'une vie est le même, qu'on le passe en chantant ou en pleurant. Proverbe japonais. Chapitre 34. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Comme à son habitude, Léon me snob. J'ai tout essayé avec lui. Chaque semaine, j'expérimente une nouvelle approche. Chaque semaine, je me heurte à un mur. Il n'est pas fou et les psys, c'est pour les fous. Il n'a rien demandé à personne, il est venu vivre ici pour être tranquille et ne plus avoir à faire le ménage et la cuisine, puisque son épouse n'est plus là pour s'en occuper. Je le dérange. Au cas où le discours ne serait pas assez clair, il agit comme si je n'étais pas là. J'ai hésité à mettre un terme à nos séances. Après tout, s'il n'en éprouve pas le besoin, je n'ai aucune raison de le forcer à me parler. Mais mon côté Saint-Bernard espère toujours renifler la personne qui attend de l'aide sous les gravats. Je suis persuadée que derrière les sarcasmes de Léon se cache un mal-être et j'aimerais l'aider à l'adoucir, quel que soit le moyen d'y parvenir. J'ai prévu mon coup. L'idée m'est venue lors de notre dernière séance, qu'il a passé assis dans son fauteuil massant, à surfer sur sa tablette en lâchant de-ci de-là un gémissement de contentement. Au bout d'une heure, je suis sortie avec la ferme résolution de gagner la partie qu'il avait engagée. À moitié allongé sur son canapé, il ne répond pas à ma question. Le plan se déroule comme prévu. Je quitte la chaise de bois qu'il consent à prêter à mes fesses une fois par semaine et m'installe sans un mot dans son cher fauteuil massant. Du coin de l'œil, je le vois lever la tête et m'observer. Je me retiens de sourire. Tout roule. Il est temps de passer à l'étape suivante. Je plonge la main dans la poche de ma blouse et en sors ostensiblement mon smartphone. Léon se redresse. Tu vas voir qui est le plus fort. Je règle le volume au maximum et touche le carré coloré pour lancer la partie de Candy Crush. Aussitôt, l'écran se remplit de bonbons multicolores que je dois aligner pour marquer des points et faire résonner la pièce de sons en tout genre. Léon se lève. Je le sens. Il meurt d'envie de me demander ce qui me prend. Mais s'il le fait, il rompt le pacte de silence qu'il a passé avec lui-même. Qui l'emportera? La fierté ou la susceptibilité? Il fait le tour de la table et s'assoit sur la chaise en bois face à moi. Je ne quitte pas mon écran des yeux. Il reste silencieux plusieurs minutes, son visage lifté tourné vers la fenêtre. Puis il ouvre la bouche.
J'ai été adoptée. Ma mère m'a abandonnée sur le parvis d'une église, nue en plein mois de janvier. J'avais 2 jours. À l'orphelinat, ce n'était pas joyeux. Il y avait un règlement très strict et des punitions en abondance, mais pas d'amour. J'ai été recueillie à l'âge de 6 ans par un couple de boulangers. J'ai commencé à travailler le lendemain de mon arrivée. Je me levais à 4 heures tous les matins afin de fabriquer du pain pour lequel mon père adoptif était couvert de louanges. Si j'avais le malheur d'en manger un morceau, je passais le reste de la journée enfermée dans le placard de l'entrée, avec les chaussures. À 16 ans, je suis montée à Paris. J'ai vécu dans la rue quelque temps, jusqu'au jour où j'ai croisé la chance. Elle s'appelait Maryse.
Il s'interrompt. Je n'en reviens pas. Si j'avais su qu'il suffisait de feindre l'indifférence pour recueillir ses confidences, j'aurais gagné du temps. Je m'en souviendrai. Avec Léon, quand on veut quelque chose, il faut prétendre vouloir le contraire. Ce dont j'étais loin de me douter, en revanche, c'est l'histoire de ce vieux monsieur. Il n'est donc pas devenu acariâtre à force de privilèges, bien au contraire. Sous son costume de vieillard désagréable se cachent de profondes blessures. Moi qui avais régulièrement envie de l'accrocher au mur, à côté des natures mortes, je n'ai pas compris l'évidence. Je vais finir par me demander si je ne me suis pas trompée de voix.
Maryse et moi avons été heureux, reprend-il après un long silence. Nous avons fait prospérer la petite entreprise de ses parents au-delà de nos espérances. D'une boutique de quartier, nous sommes passés à une société internationale qui employait plus de 1 000 personnes. Tous les réalisateurs le savaient, nous étions les meilleurs dans le domaine des effets spéciaux. Nous avons côtoyé les plus grands. J'échange encore régulièrement avec Steven par mail. Spielberg, vous connaissez?
Évidemment que je connais. Le numéro de Brad Pitt, vous ne l'auriez pas par hasard?
Nous avons beaucoup voyagé, poursuit-il sans attendre ma réponse. Nous avons brassé des millions de francs, nous avons eu 3 magnifiques enfants. Puis notre bonne étoile a cessé de briller. En 1 an, nous avons perdu nos 2 plus jeunes enfants. Si vous saviez à quel point c'est douloureux de voir la chair de sa chair souffrir et s'éteindre. Maryse ne l'a pas supporté. Elle les a rejoints quelques mois plus tard. Je me suis retrouvée seule avec mon fils aîné, qui était très perturbé. J'ai dû vendre la société pour m'occuper de lui correctement. Il essuie ses yeux. Je me suis remariée 2 fois, mais je n'ai plus jamais connu le bonheur. Au fil des années, mon cœur est devenu de plus en plus sec. J'ai bien conscience de ne pas être facile. Je sais que je suis grincheux, mais c'est ma manière de me protéger. Quand on s'attache aux gens, on souffre. Je ne veux plus aimer personne. Et je ne veux pas qu'on m'aime. Il y a des gens qui jurent de ne plus jamais prendre de chien quand ils perdent le leur. Moi, je jure de ne jamais plus me lier à qui que ce soit.
Vous ne vous sentez pas seule ?
Je ne suis pas seule. Mes souvenirs vivent avec moi. Et puis, mon fils vient me voir au moins 2 fois par semaine. Maintenant, j'attends la fin. Heureusement. Grâce à la technologie, le temps passe plus vite,
fait-il en désignant sa tablette. Eh bien, on peut dire que vous êtes doué. La faille est indétectable sous la carapace. Il sourit. C'est la première fois que je le vois sourire. Si ça ne tirait pas autant sur les coutures, il aurait l'air d'un gentil papy.
À force de côtoyer des acteurs, j'ai sans doute acquis quelques compétences.
En tout cas, je vous dois des excuses. Je n'ai pas été tendre avec vous depuis mon arrivée. J'ai manqué de patience. J'avais envisagé la possibilité que vous ne soyez pas vraiment la personne détestable que vous prétendiez être, mais j'étais loin de me douter que vous aviez eu une vie si difficile. Vous ne m'en voulez pas ? Il regarde sa montre.
La séance est terminée, n'est-ce pas ?
Oui, c'est fini pour cette semaine. Je veux juste m'assurer que vous ne m'en voulez pas et je vous laisse. Il se lève et se dirige vers la porte.
Je ne vous en veux pas du tout. Au contraire, je vous suis reconnaissant.
Je le suis en souriant de soulagement. Il poursuit.
J'ai même envie de vous remercier. Vous venez de m'offrir un moment très plaisant.
C'est normal, c'est mon travail.
Non, j'insiste. Je ne m'étais pas autant amusée depuis fort longtemps.
Amusée ? Je demande en marquant un temps d'arrêt.
Oui, amusée. Ce moment était jubilatoire. Vous auriez vu votre tête pendant que je vous racontais cette histoire digne des Misérables, vous auriez ri aussi. Ce que vous pouvez être naïve.
Je suis atterrée. Je rêve à nouveau de l'accrocher au mur. Il serait parfait en distributeur de papier toilette. Vous avez tout inventé. Il m'observe d'un air suffisant.
Enfin, mademoiselle, regardez-moi. Ai-je vraiment l'air d'avoir été abandonnée par qui que ce soit ?
Je serre les dents. Mais c'est plus fort que moi. Il faut que ça sorte. Vous, non. Mais votre cerveau a visiblement été oublié sur une aire d'autoroute. Je quitte son studio avant de trop en dire. Peut-être que parfois, sous les gravats ne se cachent que d'autres gravats. Chapitre 35. J'ai toujours eu du mal à me réveiller. Petite déjà, c'était tout un cérémonial. Ma mère ouvrait les hostilités en venant caresser ma tête et souffler mon prénom 20 bonnes minutes avant l'heure à laquelle je devais être levée. Puis mon père entrait en scène et, bien décidé à en découdre, ouvrait grand les volets, la couette et ma fontaine à grognements. J'avais beau lutter, espérer qu'en le désirant très fort, ma mère, mon père et le jour disparaîtraient quelques heures, je finissais toujours par perdre. Le matin a toujours été plus fort que moi. C'est encore le cas, mais je ne baisse pas les armes. L'alarme de mon téléphone a désormais remplacé les assauts de mes parents. J'en ai réglé 4. Chacune prenant le relais de la précédente après 5 minutes de lutte. La première sonnerie est un chant d'oiseau, la deuxième est Crazy in Love de Beyoncé, la troisième est un clairon, la quatrième est la musique des Dents de la Mer. Assez efficace, je dois admettre, même si j'ai toujours peur de voir un requin débarquer en ouvrant mes volets. Je n'aime rien tant que les jours où je n'ai pas besoin de mettre le réveil. Laisser mon cerveau émerger quand il l'entend, prendre le temps de m'étirer, parfois me rendormir ou rester à ne rien faire. C'est précisément ce que j'ai prévu de faire ce matin. Depuis que je suis ici, j'ai pris soin de charger le planning de mes jours de congé. J'ai commencé par le nécessaire. Décoration du studio, rangement des affaires, changement d'adresse, paperasse en retard. Puis, j'ai cumulé les loisirs. Balade, cinéma, lecture, mots fléchés, shopping. Lorsque j'ai envisagé de me lancer dans la confection d'objets en pince à linge, j'ai pris conscience qu'il s'agissait d'une fuite en avant. L'ennui offrait trop de disponibilité à mon cerveau, alors je m'occupais. Faire pour ne pas penser. Je sais ce que je fuis. Il m'arrive de faire un rêve, toujours le même. Une voiture. Elle en jette, avec sa peinture flamboyante, ses chromes rutilants et ses pneus qui résistent à toutes les intempéries. Elle roule à vive allure, sans trop s'intéresser au paysage, parce qu'il faut y aller. C'est là-bas que tout le monde va. La destination est programmée dans le GPS, le pilotage automatique enclenché, elle se laisse guider. Il lui arrive de prendre une bosse, un nid de poule qui met à rude épreuve ses amortisseurs, mais elle repart toujours de plus belle, droit devant. Et puis un jour, le mur. Elle ne l'a pas vu. Il la désintègre. C'est brutal, c'est violent, c'est explosif. Il y en a partout. Un siège à droite, une pédale à gauche, le moteur en feu. Elle pense un instant que c'est terminé. Elle l'espère un peu même. Elle reste là un moment, à regarder la scène comme s'il s'agissait d'une autre voiture. Puis elle entreprend de se réparer. Elle se dit que, peut-être, des gens vont venir lui porter secours, mais personne ne vient. Alors elle se reconstruit seule, pièce après pièce, morceau après morceau. Ça prend du temps. Elle se trompe parfois et doit recommencer, c'est long. Et puis un jour, elle redevient la voiture magnifique que tout le monde connaissait. À bien y regarder, il y a quelques rayures. Un pneu est à plat et le moteur fait un drôle de bruit. Mais l'ensemble fait illusion. À un détail près. Dans le choc, elle a perdu un de ses passagers. Il est là, sur le bord de la route. Il ne bouge plus. Il ne réagit plus. Elle l'aime, ce passager. Elle le connaît depuis sa fabrication. Elle s'est habituée à ses mouvements sur ses sièges, à sa voix dans l'habitacle. Elle avait prévu de faire un plus long chemin avec lui. Elle ne veut pas le laisser là, sur le bord de la route, près de la borne 8-8. Elle ne veut pas avancer sans lui. Mais un mécanicien passe par là et ne lui laisse pas le choix. « Si tu ne repars pas, tu disparaîtras aussi, c'est comme ça, c'est la route. Elle n'est pas facile. » Alors, elle reprend la route. Un peu plus doucement, en faisant davantage attention au paysage et en appréhendant les trous, les bosses et l'irruption de murs. Et en voyant dans son rétroviseur son passager devenir de plus en plus petit. L'année qui vient de s'écouler a été une succession de murs qui ont fragilisé ma carrosserie. Je dois trouver le courage de regarder dans le rétroviseur. Je dois trouver la force d'avancer sans craindre le moindre caillou sur la chaussée. Alors hier soir, en me couchant, j'ai décidé qu'aujourd'hui serait consacré à ça. Penser, pleurer, pour enfin accepter. 8 mois pour comprendre que faire l'autruche n'est pas la solution. Il me fallait au moins un DESS en psychologie. Il est plus de 10 heures quand j'ouvre les yeux. Je soupçonne mon subconscient de vouloir faire échouer mes plans. Je retire la couette à regret et m'étire longuement en me demandant pourquoi, dans les films, les femmes qui s'étirent ressemblent à des mannequins en pleine séance photo, alors que moi je ressemble à une dinde en pleine crise de tétanie. Le café coule et j'hésite entre les biscuits fourrés au chocolat et les moelleux à l'orange quand quelqu'un frappe à ma porte. Enfin, frappe. Je devrais plutôt dire que quelqu'un défonce ma porte. Je l'ouvre avec précaution, m'attendant à voir un bélier en train de charger, mais c'est Marine qui se tient face à moi, les joues inondées de larmes. Je comprends immédiatement que ma journée d'introspection vient de tomber à l'eau.
« Je sais que tu ne bosses pas aujourd'hui, mais on va avoir besoin de toi là-bas »,
dit-elle entre deux hoquets. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'effondre à nouveau et parvient à articuler.
« Miss Mamie est morte. »
Chapitre 36. Tous les résidents sont rassemblés dans la salle de vie commune, qui n'a jamais si bien porté son nom. Ceux qui tiennent le choc sèchent les larmes de ceux qui sont effondrés. Les accolades et les paroles réconfortantes se succèdent. Les ennemis d'hier sont amis aujourd'hui. La douleur a beaucoup de défauts, mais au moins une qualité. Elle réunit. Je rejoins Elisabeth et Louise, assises à la table qu'elles partageaient chaque midi avec Marilyn. Elles sont inconsolables. Le gang des mamies est amputé.
« Nous savons bien que ça doit arriver, » dit Elisabeth en essuyant son nez de son mouchoir brodé. « Mais je n'avais jamais pensé qu'elle partirait avant moi. À part Alzheimer, elle était en pleine forme. »
Louise reste silencieuse, mais le chagrin se lit dans ses yeux. Le deuil, à cet âge, on connaît forcément. Inutile que je leur serve le laïus habituel sur les différentes étapes à traverser avant d'aller mieux. Tout ce que je peux faire, c'est être présente, leur offrir mon écoute et recueillir leur peine, en mettant de côté la mienne.
Elle va me manquer, cette Miss Mamie.
Depuis le temps que je suis ici, poursuit Elisabeth, je devrais m'habituer. J'en ai vu partir d'autres. Mais c'est au-dessus de mes forces. Je ne m'y ferai jamais. On vit, on respire, on fait des projets, et soudain, on n'existe plus. La vie est comme un château de cartes. On met un temps infini à le construire, on essaie de poser des bases solides, on monte un étage après l'autre, et puis un jour, tout s'effondre et quelqu'un les range dans une boîte. À quoi bon? Vous pouvez me dire?
Non, je ne peux pas. Parce que je me pose la même question. Parce que la mort est un sujet qui paralyse tout mon être et m'empêche de raisonner normalement. Moi non plus, je ne parviens pas à accepter le fait qu'un jour nous ne sentirons plus, nous n'entendrons plus, nous n'aimerons plus, nous n'existerons plus. Moi aussi, je me demande où on va après. Et ça me fiche une trouille terrible. Alors non, je ne peux pas vous dire à quoi bon. Parce que j'ai beau chercher, je ne vois pas. Gustave et Pierre s'approchent de nous. Pierre caresse le dos de sa femme, tandis que Gustave tend une tasse de chocolat chaud à Louise.
Je sais que vous aimez ça. Je me suis dit que ça pourrait vous faire du bien.
Elle tend un sourire qui se transforme aussitôt en grimace, puis fond en larmes. Il presse son épaule, puis se détourne pudiquement.
Je suis au potager si vous avez besoin de moi.
Elle hoche la tête. Il s'éloigne. Elisabeth tire un nouveau mouchoir de sa poche et le tend à Louise.
Nous sommes encore toutes les deux, ma chère amie. Nous allons nous serrer les coudes et nous tenir compagnie jusqu'à la fin. C'est ce que Marilyn aurait voulu, j'en suis persuadée.
Vous avez raison,
répond-elle d'une voix tremblante.
Nous allons lui faire honneur en conservant notre joie de vivre. Mais je crois bien avoir aussi oublié comment on fait un deuil. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour la pleurer.
Bien sûr qu'il faut du temps. Pleurons-la comme elle le méritait. Ensuite, nous lui rendrons hommage. J'ai une petite idée sur la manière de le faire,
fait-elle en s'illuminant. Je m'apprête à lui en demander plus lorsque la directrice fait irruption dans la pièce et me fait signe de la rejoindre. Je m'exécute, après avoir assuré aux deux rescapés du gang des mamies être à leur disposition si elles avaient besoin de s'épancher. Anne-Marie m'entraîne à l'extérieur.
Vous parvenez à gérer? Me demande-t-elle.
Je crois. Je fais le tour des résidents pour recueillir leurs ressentis et je vais organiser un groupe de parole au plus vite.
Bien, dit-elle en hochant la tête. Les décès sont un moment sensible. Si vous rencontrez le moindre problème, venez m'en parler.
Je le ferai. Pour l'instant, ça va.
Mais le plus dur reste à venir.
Ah, qu'est-ce qui peut être plus dur? Elle passe la main dans ses boucles et lâche un long soupir.
La famille de Marilyn ne va pas tarder à arriver.